Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Certains ont manifesté pacifiquement et dans la bonne humeur. Bon enfant, c'était l'adjectif et le mot d'ordre au début. D'autres ont bloqué des ronds-points, des dépôts pétroliers, des barrières de péage, maintenant des lycées. On a vu aussi des mécontents briser des vitrines, brûler des palettes, renverser des voitures, taguer l'Arc de Triomphe ou des abribus, faire tomber les grilles des jardins, monter sur des barricades, lancer des pierres, crier des slogans, pétitionner, écrire des tribunes, faire des déclarations publiques, marcher. En gros, ils ont cherché des tas de moyens d'exprimer leur colère, leur désarroi, leur indignation, leur sentiment d'injustice, leur ras-le-bol, leur haine, leur mépris, leur frustration ou simplement leurs idées. Des moyens violents ou pacifiques, festifs ou agressifs, légaux ou hors la loi. Un mouvement inédit, c'est ce qu'on dit. Aujourd'hui, ceux que nous rencontrons ont aussi trouvé, mais depuis longtemps, un moyen décalé, étonnant, un peu absurde, de dire leur colère, leur indignation de manière publique. À la différence des gilets jaunes, leurs actions sont ciblées, individualisées, même si leur message est aussi politique. On ne les défend pas plus qu'on ne condamne les gilets jaunes, ni ne les soutient. On avait enregistré cette émission bien avant les événements récents et on s'est dit que ce n'était pas si absurde de les écouter aussi, ces activistes, redresseurs de tort et donneurs de leçons, bonnes ou mauvaises, à vous de juger. En tarteurs donc, en farineurs et autres plaisantins, plus ou moins drôles, ainsi qu'une de leurs fameuses victimes, quatre récits, tout de suite dans Les Pieds sur Terre, sur France Culture par Olivier Minot.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Mon nom de guerre, c'est Aristocrasseuf. Je suis intérimaire. Poissonnier.
Voilà.
Je suis membre du collectif Alcaïd Tarte depuis sa création. En fait, c'est moi qui ai inventé le nom. On l'a créé en 2008, le collectif. À l'époque, Sarko était président et c'est vrai qu'on se sentait agressé constamment, notamment par la police, par l'idéologie ambiante qui s'approchait vraiment de l'extrême droite. Voilà, et puis ça a été notre rébellion à nous, ça a été avec la tarte à la crème. Alors ça peut être dangereux pour nous parce que c'est vrai qu'on les planque dans nos manteaux, puis avec aujourd'hui, s'ils nous voient sortir un truc sous le... ils vont croire que c'est un pétard, quoi. Mais non, c'est une assiette en carton avec une bombe de chantilly, on se dépêche parce que ça fond très vite et puis ça sent pas très bon avec le contact sur la peau, donc il faut... Donc ça, c'est l'un des trucs qu'il y a à côté. C'est vrai que quand t'entartes un mec, tu sais qu'après, il pue pendant 2 heures pendant son meeting. Parce que l'écaille sur la peau, en fait. En Belgique, en fait, ce qu'ils ont, c'est que leur tarte, c'est de la pâte à pizza. Mais nous, on n'en a pas en France, en fait. Voilà, donc c'est pas une tarte, c'est une assiette. Et généralement, on les signait derrière, on faisait un petit dessin aussi derrière. On revendiquait le caille tarte. Donc, nous, on est quand même des activistes non violents. On a voulu utiliser l'humour comme arme de destruction massive à l'époque. On a eu Colomb en 2010. Là, c'était vraiment parce qu'on, en fait, on le comparait vraiment à Sarko. Toujours pareil, hein, répression des sans-papiers, répression des Roms, répression des prostituées. Le copain des grands décideurs lyonnais. Donc, c'est pour ça qu'on s'en est pris à lui, quoi. Ce qui s'est passé, c'est qu'on, en fait, les hommes politiques, on les fliquait par le biais de leur blog, donc on connaissait leurs déplacements. Et là, ils venaient faire un coup de com sur la place Badourian, donc dans le 7e. On le filoche, c'est vrai qu'on a un gros coup de trouille, j'y vais pas. Donc il se pavane, il se met en avant, on le prend en photo, il fait sa petite com auprès des commerçants. Puis à un moment, il s'arrête sur cette place à la sortie du métro, donc là, la Guillotière. Et là, je décide d'y aller et je fonce, je réfléchis pas. J'arrive dans son dos, je lui éclate dans la gueule et je repars en courant. Et là, j'entends « Oh le con !» Je vois 8 mecs qui sortent des brassards sur la... Ce qui est en fait des flics en civil qui l'escortaient. Et là, j'entends les sirènes qui commencent à sonner dans tous les sens. Et puis avec mon pote, on court sur les quais du Rhône. Et on a réussi à se planquer dans un immeuble pendant plus de 2 heures. Alors que les flics étaient passés dans l'immeuble, mais n'étaient pas montés au dernier étage. Voilà. On les a entendus, ils ont défoncé une porte en fait au rez-de-chaussée, mais vu qu'il n'y avait pas d'ascenseur, ils ont eu la flemme de monter. Donc le quartier quadrillé, les flics qui nous chargent dans tous les sens. T'as la trouille, quoi, comme si t'avais vraiment fait un braquage. On se prend pour Mesrine là, dans ce genre de moment. Donc ça s'est fini, on a jeté nos affaires, on s'est changé, puis on est sorti incognito, quoi, ni vu ni connu. Donc ensuite, on a eu Cohn-Bendit pour les européennes, donc je crois que c'était un an plus tard, en 2011. Ensuite, on a eu l'artiste Ben. Alors là, on s'est fait avoir parce qu'il a vraiment, il a rigolé à notre action. Puis enfin, on s'est fait avoir, c'est que là, on perd quand la personnalité rigole, se marre. Nous, ce qu'on veut, c'est que le mec s'énerve, nous insulte et puis passe clairement pour un con. Et là, quand le mec se marre, ben voilà, ça marche pas, l'effet ne marche pas. Ensuite, qui c'est ? On a eu en 2012 Raffarin. Toujours pareil, à l'époque, Sarko se représente une deuxième fois pour deuxième quinquennat. Et Jean-Pierre Raffarin vient le représenter à Lyon. Voilà, donc nous sommes trois avec un caméraman. Nous l'attendons place Bellecour. Nous le voyons sortir de la voiture. Le plan, c'était de l'entarter puis partir dans la rue piétonne sur la rue Victor Hugo. Et mon camarade, au lieu de partir à gauche, part à droite et se fait cintrer par le chauffeur de la chambre de commerce de Lyon. Moi, j'ai réussi à m'enfuir. Je suis le seul qui s'est jamais fait attraper, en fait. Donc, le tout dernier en date, en fait, on a collaboré avec le maître du maître de la tarte à la crème et on a participé à l'entartage de BHL à Namur. Et en fait, nous, on utilise justement ce coup de média sur cette personne, ce coup de projecteur, pour le dévier et puis parler de causes qui nous sont chères, comme à l'époque, c'était la condition des sans-papiers, les centres de rétention, le fait qu'il y ait de plus en plus de pauvres. Enfin, nous, on est tous issus de classes pauvres ou classes sociales moyennes, quoi. Donc, on est quand même témoins aussi de l'époque dans laquelle on vit et de la pauvreté ambiante, quoi. Donc, voilà, c'était ça, on voulait se battre contre ça, quoi. Un politique, en fait, fait vraiment attention à son image et c'est vrai que la tarte à la crème, ça le ridiculise complètement. Et comme dit Jean-Pierre Chevènement, c'est son capital image, quoi. Et lui-même a dit pendant le procès avec Noël Godin qu'il aurait préféré que ça soit une pétoire corse qui lui pète dans la gueule qu'une tarte à la crème.
Alors, je vais vous demander de vous présenter pour commencer, nous dire qui vous êtes.
Oui, Jean-Pierre Chevènement.
C'est un titre, quelque chose aujourd'hui, comment on doit vous appeler ?
Non, on m'appelle Jean-Pierre.
Ok, Jean-Pierre. Est-ce que vous vous souvenez ce qui s'est passé ? Vous, c'était en 2002 ?
Écoutez, c'était pendant la campagne présidentielle de 2002 où j'étais candidat. Donc, visitant le salon du livre, j'ai été soudainement agressé par. Monsieur Godin, qui m'a balancé à la figure une tarte aux ananas, si je me souviens bien, mais dont j'ai surtout fait connaissance à travers la bordure craquelée, et j'ai ressenti une certaine douleur, je veux dire, sur le moment. Évidemment, j'étais inondé de crème, et il y avait inévitablement une petite télévision, LCI à l'époque, qui filmait la scène. Donc ça se passait vers 16h, 17h, c'est passé sur LCI à 18h. J'ai donc décroché mon téléphone pour appeler le patron de TF1 en lui disant que naturellement, si cette scène était diffusée, je porterais plainte. Il m'a rassuré, il m'a dit qu'il n'avait pas l'intention d'utiliser ce genre de document, il a eu l'honnêteté de ne pas le faire. Un politique, il est élu par le suffrage universel, il a une légitimité qui correspond au mandat que le peuple lui donne, mais il doit être insoupçonnable, il doit être intègre, mais en même temps, il ne doit pas être atteint dans son image par des moyens déloyaux. La violence physique est une chose que je saurais surmonter, mais la violence symbolique, c'est autre chose pour un homme politique. Voir son image dégradée, répandue à des millions d'exemplaires, c'est pénible, car un homme politique n'a que sa réputation, ses convictions. Par conséquent, j'ai poursuivi M. Godin en justice. Je l'ai fait condamner en première instance. Il a fait appel. Je l'ai fait condamner en appel. Il s'est porté en cassation et je l'ai fait condamner en cour de cassation. De sorte que cette jurisprudence vaut précédent et que depuis cette affaire-là, M. Godin n'exerce plus cette activité d'entartreur qui est déshonorante, d'autant qu'elle est couplée à des systèmes de médias qui reproduisent très largement la scène. Donc, encore une fois, il faut comprendre à quoi tout cela sert. Ça sert à discréditer, à tort ou à raison. Parce qu'à la limite, il y a des gens dont, moi personnellement, ça ne me fait pas de peine qu'ils aient été entartrés, mais sur le plan de la déontologie, je suis contre. On peut même entartrer M. Bernard-Henri Lévy, je suis contre aussi.
Même si ça vous déplaît pas, d'après ce que j'entends.
Je vous ai rien dit. M. Godin ne peut plus intervenir en France. Il a essayé de m'entartrer à nouveau en Belgique. Je me rends quelquefois à l'étranger. Ça n'a pas réussi parce que j'ai bénéficié d'une protection de la part de la police belge qui fait qu'on m'a fait quitter la gare de Bruxelles midi par une autre porte que celle où j'étais attendu. Mais en France, il ne peut plus intervenir. Je considère que c'est une petite victoire. J'en tire une légère satisfaction.
Emporte-toi les pompeux cornichons. Gloup, gloup.
Je m'appelle Kéké, j'ai 30 ans et j'habite à Lyon.
Moi, je m'appelle Jackie, j'ai 27 ans et j'habite en caravane.
Alors, l'hiver dernier, il a fait particulièrement froid et il y avait énormément de gens qui dormaient dehors. Donc il y a eu énormément de réquisitions de bâtiments vides qui ont été faits. Et David Kimmelfeld a fait une intervention dans les médias en disant qu'il cherchait des solutions, même s'il n'y en avait pas, il faisait que les chercher, mais par contre qu'il tolérerait aucun squat. Il y a eu quand même des squats qui ont ouvert, qui appartenaient à la métropole, qui ont été occupés par des gens qui étaient à la rue. Et au lieu que la métropole apporte des solutions comme ils s'étaient engagés à le faire, et ben en fait ils ont voté un budget d'1,8 million sur 2 ans à la société Securitas pour sécuriser leurs bâtiments vacants. Et avec 1,8 million, s'il avait fallu régler la question du logement, je pense que ben on s'en sortirait beaucoup mieux aujourd'hui.
Et vient ce fameux jour où on apprend que David Kimmelfeld fait une conférence à la Maison de l'Environnement où il doit parler d'éducation et tout ça pour les jeunes en plus. Alors du coup, enfin, bref, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour faire ressurgir ce budget d'1,8 million. Du coup, on est parti là-bas avec quelques alarmes et boîtiers de détecteurs caméras qu'on avait.
C'est l'équipement métropole de base dans tous les bâtiments. Ils utilisent les mêmes alarmes. Alors au début, on attendait devant la Maison de l'Environnement, mais on s'est vite rendu compte qu'on savait pas par où elle allait sortir, donc on a décidé de rentrer dedans et d'écouter la conférence. On voulait pas le faire à l'intérieur de la Maison de l'Environnement parce qu'ils étaient quand même en train de parler d'un sujet qui... Enfin, on aurait été hors sujet de faire cette revendication-là à l'intérieur, donc du coup, on devait attendre qu'ils sortent.
Et du coup, moi, j'avais le gobelet EcoCup 50 centilitres de farine qui était dans ma poche. Et du coup, on s'est baladé comme ça dans la conférence, à lire des flyers et tout ça. Il y avait du jus de fruits et tout, donc on a bu des jus de fruits. On a fait, voilà, c'est fondu dans le décor. Suite à ça, en fait, on m'a vu qu'il se dirigeait vers la sortie. À ce moment-là, on a emboîté son pas, on l'a suivi jusque dehors. Et une fois dehors, en fait, on l'a doublé, on s'est mis devant lui. Et au final, il nous a pas du tout calculé. Alors du coup, on s'est regardé, on s'est dit, allez, c'est parti. et puis bim, hop, les boîtiers qui volent à ses pieds.
Je lui ai dit, ouais, David, voilà ce qu'on en fait, t'es 1,8 million. Et je les ai jetés par terre.
Et moi, j'ai rien dit du tout. J'ai juste jeté de la farine, j'ai très bien visé. Et derrière, ça a été assez surprenant parce qu'on est reparti en marchant jusqu'au tram. Et on a repris le tram pour rentrer chez nous, voilà, tranquillement. Alors qu'on s'attendait à avoir un minimum de sécurité, tout ça autour de lui, mais au final, rien.
Au début, c'était marrant parce que quand je l'ai interpellé en lui disant « David, t'es 1,8 million, voilà ce qu'on en fait », il a rigolé.
Je pense qu'il n'a pas compris du tout sur le coup.
Donc le fait est qu'il a porté plainte. De par les photos qui avaient été prises par des journalistes à la Maison de l'Environnement, on a été rapidement reconnus. Ça a pas loupé parce qu'une semaine après, j'étais avec un pote à côté de la gare de Pardieu en voiture.
Il y a une voiture de BAC, de la brigade anti-criminalité, qui arrivait en face de nous pour bloquer la file. Et du coup, ils étaient trois. Ils se sont mis à courir vers nous avec les flingues en l'air. Et puis après, ils étaient autour de la voiture en train de nous braquer et de nous dire... ils nous disaient en même temps de couper le contact et en même temps de lever les mains, ce qui était un peu compliqué. Donc c'est à ce moment-là qu'ils m'ont interpellé. Ils m'ont emmené au commissariat. Et perquise de la voiture, perquise de la cabine. Nous, pendant ce temps-là, le soir même, du coup, on était tranquillement en train de boire l'apéro dans le salon de là où on habitait. Et d'un coup, il y a plein de flics qui sont rentrés dans la maison avec visière pare-balles et tout. Moi, dès qu'ils m'ont vu, ils m'ont embarqué direct. Ça a été fait, j'étais menotté. Il y avait mes chiens qui aboyaient autour de moi et tout ça. Et puis, fallait calmer les chiens, mais ils voulaient pas me détacher. Alors du coup, je savais pas comment faire. Ils braquaient le taser sur les chiens et tout ça. C'était un peu chaud. Au final, on a isolé les chiens dans une pièce. Il y avait les enfants qui pleuraient à côté et tout. Enfin, c'était le bordel. En sortant de la maison, du coup, menotté et tout, je vois 10 ou 15 camions alignés devant, avec tout le monde dehors et tout ça, la rue bloquée. On croirait qu'ils arrêtaient des terroristes, quoi. On a vu le dossier, il fait 10 cm d'épaisseur à peu près. Et c'était assez édifiant parce qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient mis des moyens énormes. Enfin, je veux dire, il y a eu 3 centrales d'alarme et une dizaine de détecteurs qui ont été jetés. Et ils ont fait test papillaire et ADN sur tous les équipements, y compris les piles qui étaient à l'intérieur. On a des relevés téléphoniques avec tous les gens qui étaient en train de borner à ce moment-là à l'intérieur de la maison de l'environnement. L'enquête a été très minutieuse, ouais. Et après, derrière, tout a tourné autour de la question de la violence.
La farine, c'était le moins violent qu'on ait trouvé. Pour entarter quelqu'un, il faut mettre quand même, il y a un geste d'une claque, ouais, en gros. Et du coup, on a voulu éviter ça. La juge nous a demandé si on était prêt à suivre un stage de citoyenneté, auquel on a répondu, bien sûr, avec plaisir.
Et malgré tout, et même si on est condamné, on continuera à se battre pour ça, parce que il y a des gens qui dorment dehors, il y a la métropole qui est tenue de prendre en charge et d'accueillir ces personnes-là, et elle le fait toujours pas. Et tant que ce sera pas fait, on continuera d'en parler le plus possible, et peut-être qu'un jour, les choses, elles évolueront.
Je m'appelle Michael, j'ai bientôt 40 ans. Dans la vie, je suis paysan dans le sud de la France. En 2003, je pense que c'était la deuxième édition, mais ça devait être la première à Lyon, d'un forum qui s'appelle Biovision. Et Biovision, c'était un outil de propagande pour dire « Regardez, les biotechnologies, c'est bien, ça va sauver la planète. » C'est toute la recherche autour des OGM, autour de la modification en fait du vivant, le brevetage du vivant. Ça, je pense que c'était très important. Tout le truc sur les semences, par exemple. Je me rappelle qu'on a appris qu'il y aurait ce sommet-là à Lyon, que la ville de Lyon allait mettre des moyens assez énormes pour accueillir ces gens-là, que c'était vraiment beaucoup de participants, que c'était un gros truc. Et nous, on s'est dit, ces histoires-là, à un moment donné, ça nous donne envie de vomir. Et pourquoi est-ce qu'on vomirait pas, en fait ? Cette action, on l'a faite dans le cadre du discours inaugural du Forum Biovision. Donc c'était une séance publique. Donc sur l'estrade... C'était les organisateurs du forum, donc des décideurs politiques, et puis après des patrons, Bayer, Monsanto, ce genre d'entreprises. Des grosses multinationales qui investissent énormément dans le secteur des technologies du vivant. Donc on s'est dit, on peut aller à cette soirée et faire une action publique. Donc on voulait faire une action qui reste dans le symbolique, avec une prise de risque limitée. Voilà, et on voulait pas séquestrer 3000 personnes dans une salle ou je ne sais quoi. Et en même temps, je pense qu'on trouvait ça assez beau, cette idée que notre corps intervienne, quoi. Bah, la veille, on s'est dit, voilà, on va aller à cette séance inaugurale et pour l'interrompre, on va vomir devant tout le monde avec une banderole. Alors, vos biotechnologies nous font gerber, tout simplement. Et donc, après, se sont posées plein de questions techniques. Trouver un vomitif efficace, accessible. On voulait aussi que ça soit quelque chose avec lequel on puisse rentrer sans être soupçonné, parce que quand même, on se demandait si on allait être fouillé, etc. Donc, on a fait des essais avec du café salé, avec différents dosages de sel. Donc, on a fait ces essais. On s'est fait vomir dans la rue à Lyon. On vomissait dans la rue à Lyon. Il s'est avéré qu'il fallait mettre beaucoup de sel dans le café et qu'il y avait une sorte de petit temps de latence de quelques minutes. C'est toute la problématique. C'est des problèmes de... voilà, à quel moment tu absorbes le café salé pour pouvoir vomir tout le monde en même temps. On s'était disséminé dans la salle de congrès. Il y avait une grande fille, une Hollandaise, qui était très grande. Donc c'était elle notre déclencheur visuel. Donc quand elle se levait et qu'elle commençait à descendre vers l'estrade, on savait que nous, on devait boire le café et descendre vers l'estrade. Et on avait imaginé que tout le monde se lèverait, des différents endroits où on était disséminés dans la salle, et qu'on allait descendre vers l'estrade par l'allée centrale et aller vomir devant l'estrade, en fait. Ça, c'était le projet. Ce qui s'est passé, c'est que... Alors moi, je me souviens avoir bu ce café, m'être levé, avoir poussé un peu les gens, comme quand on veut aller pisser au cinéma, là. Excusez-moi. Descendre vers l'estrade, et là, en fait, il y a une première personne qui a vomi. Mais moi, j'avais pas encore vraiment envie de vomir. Donc j'ai mis ma main en entier dans ma bouche pour accélérer le processus, ce qui est une sensation très étrange de se retrouver au milieu. Je ne sais pas combien il y avait de gens, il y avait peut-être 200 personnes, au moins. Donc c'est une sensation très étrange d'un coup d'être complètement plongé dans son corps de manière très intime en se mettant la main dans la bouche. Et je sentais derrière moi qu'il y avait les amis qui descendaient aussi, qui essayaient de vomir, qui y arrivaient plus ou moins, mais dans tous les cas, tout le monde faisait des espèces de râles vomitifs, gutturaux. Voilà. Et il y a une sorte de brouhaha qui... Enfin voilà, ça a quand même bloqué le discours. Et il y a deux personnes qui avaient une banderole, en fait, qui était cachée, qui était pliée dans leur sac et qui l'ont dépliée devant l'estrade. Avec vos biotechnologies nous font gerber. Et à partir de ce moment-là, il y a la sécurité qui est intervenue. On s'est fait sortir, mais il y avait des personnes qui avaient encore des spasmes. Donc, il y a des personnes qui ont vomi dehors. Donc, moi, j'ai pas refait. D'autres personnes l'ont refait. À Grenoble, ça a été fait au conseil municipal. En 2005, il y a eu deux tentatives. Enfin, il y a un squat qui a été ouvert deux fois et qui a été expulsé deux fois, qui était rue des Alliés, où les personnes se sont retrouvées en garde à vue. Et je pense qu'elles en ont eu vraiment, vraiment marre. Alors, ces personnes étaient connues, donc un peu craintes par l'équipe municipale, mais ils ne pouvaient pas les empêcher de rentrer à cet endroit-là. Et donc, elles ont vomi avec la même technique du café salé dans le conseil municipal. Donc là, le conseil municipal s'est arrêté. Ils se sont fait sortir par des vigiles aussi à la mairie. Et certaines personnes n'ont pas réussi à vomir, ont vomi sur les marches de l'hôtel de ville de Grenoble. Donc, dans une petite pièce, l'odeur de vomi est beaucoup plus désagréable que dans une grande pièce. Donc, le conseil municipal s'était complètement interrompu. En fait, nous, je pense qu'on rêvait de balancer de magnifiques... gerbe de vomi sur l'estrade, presque à la manière d'un entartage, en fait. C'était ça, notre fantasme. L'entartage ou l'enfarinage, c'est quelque chose de blanc, c'est de la chantilly, c'est assez esthétique. Là, le vomi, c'est un peu moins sexy, je pense, comme action. Je pense que c'est pour ça que ça n'a pas fait florès et que ça reste assez confidentiel comme mode d'action.
It's pleasant but unkind, my hourglass of wine. Round and around, I'm spinning round, and you come around and around we go. Round and around, and I'm spinning round, and you come around and around we go.
C'était Les Entarteurs, un reportage d'Olivier Minot réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci au collectif Alcaïtart, à Jean-Pierre Chevènement, à Noël Godin et Sylvie, à Keke et Jackie, à Michael et Flobé. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Camille Richir, notre stagiaire.